Mardi 11 mars 2025. Donc c'est notre septième séance consacrée à la lecture de l'Esprit des lois de Montesquieu. Alors après avoir étudié la fois dernière, selon les termes de Montesquieu, la nature et le principe du gouvernement républicain, eh bien nous allons aujourd'hui examiner le gouvernement despotique. Et cet examen nous ouvrira la voie vers une réflexion sur les conditions de la liberté politique. Mais avant d'aborder le gouvernement despotique, il me semble nécessaire de s'interroger sur la progression du livre 3 de l'Esprit des lois, qui est un livre consacré au principe des gouvernements. Et au vu des titres d'un certain nombre de ces chapitres, on pourrait penser que la question de la vertu, que nous avons largement examinée la fois précédente, on pourrait penser que la question de la vertu, vertu civique, hein, est au centre de la réflexion de Montesquieu. Il semble en effet que le problème central dans ce début, en tout cas, du livre 3, c'est celui de savoir quels sont les gouvernements qui ont besoin de la vertu et ceux qui n'en ont pas, besoin. Et la réflexion de Montesquieu s'ordonne à partir de la vertu, qui sert en quelque sorte de référence pour cerner les différents modes d'obéissance qui sont requis pour chaque type de gouvernement. Et il est remarquable, par exemple, qu'au moment d'aborder le gouvernement monarchique, Montesquieu ne présente pas directement son principe, qui est l'honneur, hein, on en a parlé, mais qu'il se demande d'abord si la vertu y est nécessaire. Alors, par exemple, le titre du chapitre 5, je vous le lis, vous ne l'avez pas sous les yeux. Hein. Le titre du chapitre 5 du livre 3, c'est le suivant. « Que la vertu n'est point le principe du gouvernement monarchique. » Titre du chapitre 6, « Comment on supplée à la vertu dans le gouvernement monarchique ?» Et c'est seulement au chapitre 7 que Montesquieu aborde vraiment le principe de l'honneur. Donc vous voyez que la vertu est une référence, même lorsqu'il s'agit de parler du gouvernement monarchique, même si c'est pour dire que le gouvernement monarchique n'en a pas besoin. Donc tout se passe comme si, par conséquent, la vertu était la référence à partir de laquelle il faut penser le mode d'obéissance requis dans les autres gouvernements que le gouvernement républicain. Mais, au terme du livre 3, juste après l'examen du principe du gouvernement despotique, qui est la crainte, eh bien, le propos de Montesquieu évolue. Il introduit une nouvelle typologie des gouvernements, une nouvelle classification des gouvernements, qui oppose les gouvernements modérés, on appelle gouvernement modéré ceux qui sont réglés par des lois, donc qui opposent les gouvernements modérés aux gouvernements despotiques. Alors, cette nouvelle typologie qui distingue donc deux sortes de gouvernements, modérés et despotiques, elle n'annule pas la première qui distingue, rappelez-vous, gouvernement républicain, monarchique, despotique. Mais elle regroupe les deux premiers, donc le républicain et le monarchique, sous un même genre, le genre des gouvernements modérés. Et ensuite, évidemment, Montesquieu oppose ces gouvernements modérés aux gouvernements despotiques. Et le titre du dernier chapitre du livre 3, le chapitre 10, est ainsi le suivant, vous l'avez d'ailleurs Vous l'avez d'ailleurs, page 1, oui, non ? Oui ? Page 1, le titre du chapitre 10, vous l'avez sous les yeux. Différence, c'est en bas à droite, différence de l'obéissance dans les gouvernements modérés et dans les gouvernements despotiques. Donc on a ainsi d'un côté les gouvernements républicains et monarchiques qui certes sont différents mais qui ont pour point commun d'être réglés par des lois, donc ce sont des gouvernements modérés. Et puis de l'autre, vous avez un gouvernement, le gouvernement despotique, dont je reprends la définition, vous avez chapitre 1er du livre 2 en haut à gauche, j'ai souligné le passage, gouvernement despotique, dans lequel un seul, sans loi et sans règle, entraîne tout par sa volonté et par ses caprices. Vous voyez ? Je reprends ici la définition qu'en donne Montesquieu. Dans ce gouvernement, le gouvernement despotique, la loi n'est pas vraiment une loi. La loi n'est pas vraiment une loi qui limite le pouvoir du gouvernement. C'est une loi, comme dit Montesquieu dans un autre passage, c'est le chapitre 16 du livre 5, une formule que j'ai trouvée là, page 2. C'est dans, à la fin du chapitre 16 qui est en haut à droite. Ben, la loi dans un gouvernement despotique, c'est, comme dit Montesquieu, la volonté momentanée du prince. La volonté momentanée du prince. Vous avez trouvé ? Quand Montesquieu dit le prince, ici le prince c'est le chef d'État, hein, et pas le prince le fils du roi. Bon. Alors, donc d'un côté, on a des gouvernements, donc les gouvernements modérés, dans lesquels l'obéissance a des limites, parce que le pouvoir est soumis à des lois et à des règles. Et puis de l'autre, on a un gouvernement, le despotique, dans lequel l'obéissance, comme dit Montesquieu, est extrême, extrême, car la volonté du despote commande sans limite. Et là, regardez bien, chapitre 10 du livre 3, on va lire quelques passages, page 1, en bas à droite, je lis le début. Dans les États despotiques, la nature du gouvernement demande une obéissance extrême et la volonté du prince, une fois connue, doit avoir aussi infailliblement son effet qu'une boule jetée contre une autre doit avoir le sien. Et je lis un peu plus loin, un petit passage, une petite phrase que j'ai soulignée dans ce gouvernement despotique. L'homme est une créature qui obéit à une créature qui veut. C'est-à-dire qu'il suffit de vouloir, finalement, pour gouverner. Il suffit de commander pour exercer le pouvoir. Donc, vous voyez qu'à la fin du livre 3, on assiste à un déplacement. La réflexion ne s'ordonne plus à partir de la vertu, mais elle s'ordonne désormais à partir de la crainte, qui est le principe du gouvernement despotique. Je rappelle ce que veut dire le terme de principe pour Montesquieu. Le principe, c'est la passion qui motive l'obéissance des hommes dans un gouvernement et grâce à laquelle ce gouvernement peut se conserver. Donc, le principe du gouvernement républicain, c'est la vertu, celui de la monarchie, c'est l'honneur, celui du gouvernement despotique, c'est la crainte. Donc, vous voyez, maintenant, la réflexion va s'ordonner à partir de la crainte. Dès lors, comme on aura l'occasion de le voir, en s'éloignant de la question de la vertu, Montesquieu va s'éloigner aussi de la définition républicaine de la liberté politique. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que c'est que cette définition républicaine de la liberté politique ? Selon cette définition, la liberté politique, consiste dans l'exercice de la volonté des citoyens, c'est-à-dire dans la participation des citoyens à l'élaboration des lois, au pouvoir. Et comme on l'a vu la fois dernière, en examinant justement le gouvernement républicain, et plus particulièrement la démocratie, qui est sa forme la plus exigeante, eh bien cette liberté politique exige pour se réaliser des citoyens vertueux, c'est-à-dire des citoyens capables d'obéir aux lois qu'ils ont décidées, capables de sacrifier leurs intérêts particuliers au bien commun. Vous vous souvenez de cela ? C'est ce qu'on avait vu. Mais comme on l'a vu également, Montesquieu ne manque pas de souligner le danger auquel s'expose une démocratie. Quand le pouvoir du peuple est sans limite, quand le pouvoir du peuple est absolu. Et c'est pourquoi il sera amené plus tard, plus loin, dans le livre 11, à récuser la définition républicaine de la liberté politique, car elle revient, selon lui, à confondre le pouvoir du peuple et la liberté du peuple. Vous voyez, il va récuser la définition républicaine de la liberté politique parce que cette définition repose sur une confusion entre le pouvoir du peuple et la liberté du peuple. Alors, on aura l'occasion de bien revoir cela, mais je vous présente une petite explication tout de même. Il ne suffit pas que dans une démocratie, le peuple décide des lois et fasse ainsi ce qu'il veut pour qu'il soit vraiment libre. Il n'est pas vraiment libre s'il se contente, au fond, de vouloir les lois. Il n'est vraiment libre que si son pouvoir est réglé et modéré par des lois, et si les citoyens sont protégés par ces lois contre l'arbitraire. D'où la redéfinition que fait Montesquieu de la liberté politique qu'il va établir en l'opposant à la crainte despotique. Vous voyez ? Il va redéfinir la liberté politique en opposition à la crainte despotique. Et vous aurez ainsi cette définition que nous reverrons au chapitre 6 du livre 11. Je vous la lis. Elle est assez simple. La liberté politique dans un citoyen est cette tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté. Et pour qu'on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu'un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen. Il faut que le gouvernement soit tel qu'un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen. Vous voyez que cette définition de la liberté politique fait mention de la crainte. Donc il y a liberté politique quand on ne craint plus rien, parce qu'on est protégé par les lois. Vous voyez ? On ne craint plus l'arbitraire. Donc, vous voyez que, et c'est ça qui est, au fond, la grande nouveauté de Montesquieu, hein, c'est que la liberté politique ne se définit pas comme vous pourriez vous y attendre, comme l'exercice d'une volonté. Serait-elle la volonté du peuple ? Car une volonté qui prétend faire la loi en ne considérant que ce qu'elle veut est toujours dangereuse. La volonté est toujours dangereuse, quel que soit son détenteur. Serait-il le peuple ? Mais vous voyez que donc Montesquieu change de définition. La liberté politique, elle se définit comme le sentiment de sécurité, de sûreté, dont on jouit quand on ne se sent plus menacé par l'arbitraire de la volonté d'un autre homme. parce qu'on est protégé par des lois et des lois qui valent pour tous. Vous voyez ? Donc la liberté politique apparaît ainsi comme l'antidote de la crainte despotique. L'antidote de la crainte despotique. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que la démocratie est une mauvaise chose, ce n'est pas ce que dit Montesquieu. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, mais ce n'est pas la liberté du peuple. Ça ne suffit pas, si vous voulez. Ça ne suffit pas pour que ce pouvoir ne devienne pas despotique et qu'il ne se traduise pas par de l'arbitraire à l'égard des citoyens. Il faut qu'il soit modéré, limité par des lois. Voilà. Vous voyez ? Donc, à ce moment-là, oui, il y aura à la fois pouvoir du peuple et liberté du peuple. C'est ce que nous aurons l'occasion de voir. Vous voyez ? Et parce que le gouvernement despotique est le pire de tous, hein, c'est le pire de tous, hein, c'est ce que nous avons déjà montré, hein, c'est le pire de tous. Pourquoi ? Parce que, comme le disait déjà Montesquieu à ce sujet, c'est un gouvernement monstrueux, dit Montesquieu. C'est un gouvernement monstrueux. Il cause à la nature humaine des maux effroyables. Hein, on y pratique la torture, on exerce une violence effectivement sans limite, etc. Bon, ça, c'est ce que nous avons déjà montré de lui. Eh bien, parce qu'il est le gouvernement le pire de tous, il est ce qu'il faut à tout prix éviter. Mais comme on aura aussi l'occasion de le voir, hein, j'annonce un peu tout ce que nous allons voir, comme on aura l'occasion de le voir, le despotisme ne désigne pas seulement le gouvernement despotique, le pire de tous, mais il désigne aussi la tendance qui menace les gouvernements modérés lorsqu'ils ne limitent pas le pouvoir, lorsqu'ils laissent se concentrer entre les mêmes mains tous les pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Vous voyez ? C'est-à-dire que il y a un danger mortel, si vous voulez, pour les gouvernements modérés, que sont les républiques et les monarchies, c'est que si elles laissent se concentrer les pouvoirs dans les mains d'un seul ou d'une seule assemblée, eh bien, on évolue à ce moment-là, évidemment, vers le despotisme, vers ce que Montesquieu appellera l'abus de pouvoir. Effectivement, c'est sous cet aspect, à ce moment-là, que le despotisme apparaît, comme abus de pouvoir. Et toute la question, à ce moment-là, sera de savoir comment, c'est-à-dire par quel dispositif, on peut empêcher une telle dérive et assurer vraiment la liberté politique. Donc, vous voyez que l'examen du despotisme, à commencer par le gouvernement despotique, puis la tendance que l'on appelle le despotisme, vous voyez bien que cet examen est un préalable nécessaire à une réflexion sur les conditions de la liberté politique. Mais avant d'arriver à cette réflexion, il faut commencer, c'est ce que nous allons faire ce soir, nous allons commencer par l'examen du gouvernement despotique. Et vous voyez, nous aurons deux séances hein, pour l'ensemble. Donc, j'entame cette réflexion sur le gouvernement despotique. Alors, on a déjà eu l'occasion de montrer que le gouvernement despotique, c'est une invention conceptuelle de Montesquieu. C'est une invention. C'est le premier à parler ainsi de gouvernement despotique. Jamais, auparavant, personne n'aurait osé parler d'un gouvernement despotique. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, par sa classification en trois gouvernements, républicain, monarchique, despotique, la première typologie de Montesquieu a un aspect traditionnel. Traditionnellement, on distingue toujours trois sortes de gouvernements. Mais elle a quelque chose d'original en donnant une place à ce tout nouveau gouvernement que Montesquieu appelle le gouvernement despotique. Et par là, Montesquieu rompt avec la tradition. La tradition dont la référence majeure, c'est le traité d'Aristote, le grand philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, Aristote qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les politiques ». Et Montesquieu rompt. Vraiment, Aristote, c'est la référence. Hein. Tout au long de l'Antiquité, même au Moyen-Âge, jusqu'au XVIIe siècle. Hein. Eh bien, Montesquieu rompt avec la tradition sur trois points. Premier point, il ne reprend pas le terme de tyrannie, parce qu'il aurait, il aurait très bien pu reprendre ce terme de tyrannie. Hein. Il lui préfère le terme de gouvernement despotique, parce que, pour Montesquieu, le gouvernement despotique est un gouvernement à part entière, alors que la tyrannie, je vous l'avais déjà montré, la tyrannie, pour Aristote, c'est une perversion de la monarchie. C'est une forme déviée de la monarchie. Elle se conçoit par rapport à la monarchie, alors que le gouvernement despotique, c'est un gouvernement à part entière. Deuxième point, et ça c'est très important, Montesquieu transforme radicalement le sens du terme de despote. Pour Aristote, le despote, c'est le maître qui dispose d'une autorité domestique sur ses esclaves. Et cette autorité présuppose une hiérarchie naturelle entre le maître et l'esclave. L'esclave, c'est un homme qui n'est pas libre par nature. Ainsi, l'autorité despotique du maître, ne relève pas du domaine politique, mais du domaine domestique. Le domaine politique, c'est celui de l'autorité des gouvernants, qui s'exerce sur leurs concitoyens. Et leurs concitoyens sont des hommes libres, ce sont des égaux. Alors vous voyez que l'audace de Montesquieu va consister à donner un sens politique à un concept qui n'en a pas originellement, le concept de despote. Le despote désigne désormais, avec Montesquieu, un gouvernant qui dispose d'un pouvoir sans limite sur des hommes qui sont naturellement égaux, sur des hommes libres, et qui vont être traités, au fond, comme des esclaves. Et c'est là le scandale du gouvernement despotique. Le gouvernement despotique est un gouvernement monstrueux, parce qu'il va traiter, effectivement, les hommes comme des esclaves, il va faire violence à leur humanité. Et il est clair que, pour Montesquieu, il n'y a pas de hiérarchie naturelle, ici, qui vaille entre l'homme libre et l'homme non libre, hein. Les hommes sont égaux naturellement. Ils ont tous la même dignité en tant qu'hommes. Alors, ces deux points, je les avais déjà établis. Hein, donc, je les reprends simplement. Mais je vais davantage insister sur le troisième. Comme la tyrannie, au fond, pour la tradition, le gouvernement despotique apparaît, au fond, comme la figure du mal en politique. Vous voyez ? C'est la figure du mal. Mais en traitant le gouvernement despotique comme un gouvernement à part entière, contrairement à la tyrannie, selon la tradition, eh bien, Montesquieu va rompre avec la description traditionnelle de la tyrannie qui mettait l'accent sur le tyran, sur la figure du tyran. Deux références, si vous voulez. Par exemple, dans l'Antiquité, dans le livre 9 de la République, de Platon, 5e siècle avant Jésus-Christ, le tyran est présenté par Platon comme un homme dont l'âme est déréglée, comme un homme qui est la proie de désirs monstrueux. Vous voyez ? On met l'accent sur la figure du tyran. Et puis, si je prends une référence plus moderne, comme celle du prince de Machiavel, début XVIe siècle, eh bien, le tyran est un homme qui n'hésite pas à recourir à la cruauté. C'est un homme sans scrupules, qui peut être d'une remarquable habileté. et qui est capable, au fond, d'entrer dans le mal, comme dit Machiavel. Et vous avez ici, notamment, la figure de César Borgia, dans le chapitre 7 du Prince. Vous savez, un petit épisode assez significatif, César Borgia, c'est un prince qui conquiert la province de la Romagne. Il demande à l'un de ses lieutenants, justement, de pas hésiter sur les moyens. Hein. On massacre, on torture. Bon, vous voyez, on utilise la violence la plus extrême, hein, la plus grande cruauté. Mais une fois que la province est conquise, pour amadouer la population, qu'est-ce que fait César Borgia ? Ben, lui, il choisit son lieutenant comme bouc émissaire. Hein, il le tue. Hein, et il découpe son corps. Hein, il le démembre et il l'expose sur la place publique. Comme ça, la population, effectivement, elle peut voir son bourreau, hein, son bourreau assassiné. Et de cette manière, évidemment, César Borgia, à la fois qui a utilisé la cruauté, il peut se faire passer pour un homme commun, pour un homme bon, hein, pour un homme qui a le souci de la population et qui punit son bourreau. Bon, voilà, c'est ça, César Borgia. Homme habile. Eh bien, vous voyez que la représentation du tyran, qui s'impose surtout, au fond, dans l'Occident chrétien, à la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, c'est celle d'un prince méchant, animé par une ambition mauvaise, par opposition à celle d'un bon prince qui manifeste des vertus morales. Il y avait un genre littéraire, si je peux dire, de cette façon les choses, qui avait beaucoup de succès au Moyen-Âge, enfin en tout cas qui était souvent utilisé, c'était le miroir des princes. C'est-à-dire qu'on dépeignait dans ce miroir des princes ce que devait être le bon prince, ce que devait avoir comme qualité, comme vertu morale un bon prince. Vous voyez, c'était ça, le genre dominant. Et Machiavel a écrit d'une certaine façon son prince un peu pour se démarquer hein, de cette manière de concevoir effectivement l'action du prince. Mais voyez que si vous restez dans cette conception, la tyrannie s'explique surtout par la méchanceté du tyran. Or, pour Montesquieu, c'est là une idée fausse qui empêche d'appréhender véritablement le mal en politique. Le gouvernement despotique, oui, c'est un gouvernement monstrueux qui, je reprends la formule de Montesquieu, qui cause à la nature humaine des maux effroyables. C'est indiscutable. Mais il faut cesser de l'appréhender à partir de la personnalité du despote. Il faut cesser, en fait, de se représenter le despotisme, le gouvernement despotique, à partir de la figure du despote, comme on faisait pour la tyrannie. C'est le pire des gouvernements, non pas en raison de la méchanceté du despote, qui certes n'est pas forcément un homme bon, hein, c'est pas le problème, mais c'est un gouvernement monstrueux en raison de son propre fonctionnement et des effets qu'il produit sur les hommes. C'est-à-dire qu'on va penser en termes de fonctionnement et non plus en termes de personnalité, voyez. Ainsi, on ne trouvera pas, dans le texte de Montesquieu, un portrait du despote qui suscite l'horreur et l'indignation. Vous ne trouverez pas un tel portrait. Et loin de décrire un homme intrinsèquement porté au mal par son ambition, par une ambition mauvaise, eh bien, Montesquieu le voit au contraire comme un homme voluptueux et paresseux, entièrement accaparé par une vie de plaisir. Et je vous renvoie ici au chapitre 5 du livre 2 que je vous ai photocopié. C'est le deuxième texte à gauche, colonne de gauche. Et je lis cette phrase, la deuxième. Un homme à qui ses cinq sens disent sans cesse qu'il est tout et que les autres ne sont rien, et naturellement paresseux, ignorant, voluptueux. Et vous voyez ici que n'importe qui peut être despote, en un sens, s'il vit de cette façon, en ayant forcément à sa disposition les autres. Hein, parce que pour pouvoir vaquer entièrement à ses plaisirs, il faut que d'autres, évidemment, viennent en quelque sorte me servir. Hein. Eh bien, tout homme réduit à ses cinq sens, qui ne vit au fond que pour sa jouissance immédiate, ne voit les autres que comme des objets, des instruments à son service, et l'exclusivité au fond de sa jouissance implique la servitude des autres. Et c'est cela qui caractérise le fonctionnement d'un gouvernement despotique. C'est un homme qui se débrouille pour que tous les autres soient à son service. Alors on s'est souvent demandé pourquoi Montesquieu faisait de l'Orient le lieu naturel du despotisme. Vous savez que Montesquieu parle du despotisme oriental. Et c'est déjà le cas dans son premier écrit, les Lettres persanes. Dans les Lettres persanes, le lieu du despotisme par excellence, c'est l'Orient, hein, c'est la Perse. Et les deux persans qui viennent à Paris, Usbek et Ricard, bien, Usbek, c'est un despote, il a un sérail à Ispahan, hein, où il a enfermé toutes ses femmes, c'est polygame, et elles sont surveillées par des eunuques. Bon. Et quand vous regardez, quand vous lisez les lettres que Usbek écrit, il y a toute une correspondance pour raconter ce qu'il voit à Paris, bon. Bah, Usbek apparaît un brave homme. Il est même assez philosophe, il est très sympathique, mais rien de monstrueux. Vous voyez, c'est pas du tout l'image du torsionnaire, non. Il ne se pose pas de questions concernant effectivement l'utilisation qu'il fait de ses femmes dans son sérail, non. Il est persuadé qu'il est aimé pour lui. D'ailleurs, son épouse préférée, hein, la plus belle, sa première épouse, Roxane, bon, elle finira par lui dire, quand il aura fait assassiner par jalousie un de ses amants un de ses eunuques qu'il avait rencontré avec un des amants, eh bien, elle se suicide et elle écrit une lettre terrible à la fin des Lettres persanes où elle dit « Mais je ne t'ai jamais aimé, je t'ai trompé !» Vous voyez, c'est une lettre de révolte extraordinaire, hein, bon, quelque chose d'assez poignant. Et lui, bon, évidemment, il ne peut pas imaginer qu'il puisse ne pas plaire, hein, vous voyez, qu'il puisse effectivement ne pas être aimé. C'est assez extraordinaire, vous voyez, une espèce de bonne conscience du despote qui caractérise effectivement ici Usbek. Alors, vous voyez, le despotisme oriental, alors on pourrait penser que ce n'est qu'une fiction destinée à dénoncer surtout indirectement la dérive absolutiste de la monarchie française, parce que c'est vrai que à travers, au fond, cette fiction, à travers ce que Montesquieu dit du despotisme oriental, on voit que la monarchie française est visée. Au fond, la monarchie française, elle est l'équivalent en Europe, au fond, du système despotique en Perse. Bon. Et c'est vrai que c'est comme ça souvent qu'on a lu, hein, le despotisme oriental. Mais ce n'est pas qu'une fiction pour Montesquieu. C'est aussi une réalité. C'est une réalité observable. Et effectivement, pour Montesquieu, vous aurez l'occasion de le voir. J'en ai déjà parlé au livre 14 de Montesquieu, où il parle des climats, hein, de sa conception des climats. Il montre que le climat, c'est ce qui exerce la première influence sur la sensibilité des hommes, sur leur manière d'être, hein. Eh bien, il pense vraiment que le climat chaud des pays asiatiques les expose beaucoup plus au despotisme que le climat tempéré des pays européens. Sans pour autant que ce soit une fatalité, hein. Mais le climat chaud prédispose, oui, au despotisme et à la servitude. Alors, on aura l'occasion de voir pourquoi. Hein, parce qu'il y a un relâchement des nerfs. Bon, enfin, il y a toute une théorie, si vous voulez, derrière ça. Et quand il parle des gouvernements despotiques, eh bien, vous voyez qu'il s'agit essentiellement de gouvernements orientaux. C'est le gouvernement des Turcs. C'est le gouvernement des Persans. C'est le gouvernement du Japon. C'est le gouvernement de la Chine. Enfin, de la plupart des pays d'Asie. Et pour dégager les traits essentiels du gouvernement despotique, quand il veut caractériser le gouvernement despotique, ben, qu'est-ce que fait Montesquieu ? Eh bien, il s'inspire de la documentation des voyageurs qui reviennent d'Asie, qui reviennent de ces pays, qu'il a lu attentivement, qu'il a lu avec beaucoup d'attention. Et c'est ainsi que, selon lui, le gouvernement despotique a la structure d'un sérail, d'un harem, on peut le dire comme ça aussi, dans lequel le despote enferme les femmes qui sont ainsi à sa merci et à sa disposition, et se trouve sous la surveillance d'hommes émasculés, donc les fameux eunuques. Et d'ailleurs, dans ce chapitre 5, vous voyez qu'il est fait mention, d'ailleurs, des eunuques. Bon, je ne vous lis pas tout. Vous voyez d'abord que la servitude dans le régime despotique, c'est d'abord la servitude domestique à laquelle les femmes sont assignées, sont réduites. Elles sont recluses, elles sont réduites au rôle d'objet sexuel. Et la structure du sérail, c'est l'institutionnalisation de la polygamie. Hein. Et dans la mesure où la polygamie est instituée, eh bien, la structure du sérail, c'est aussi une violence exercée contre d'autres hommes en ce qu'une partie d'entre eux, justement, se trouvent exclus de l'accès aux femmes, puisqu'ils sont émasculés, puisqu'ils sont réduits à être des eunuques. Vous voyez ? Il y a quelque chose de violent, vous voyez ? C'est un lieu de plaisir, un lieu de fantasme et un lieu de violence, les deux à la fois. Et, sous-entendu, ça veut dire aussi une chose, c'est qu'un gouvernement, les femmes, finalement, ne peuvent avoir de liberté que dans un gouvernement modéré. Et d'une certaine façon, au livre 19, Montesquieu fait l'éloge de la monarchie française, parce qu'il y a une sorte de douceur de vivre, et c'est un régime où les femmes ont une place importante. Il ne parle pas des femmes de la paysannerie. Hein. Bon. Alors, vous voyez, tout ça, c'est ce que montrent déjà les lettres persanes, qui a pris d'une façon plus savante hein, dans l'esprit des lois. Et cette structure du sérail permet de comprendre que ce gouvernement politique, hein, c'est un gouvernement politique, le gouvernement despotique, je l'ai dit, eh bien c'est un gouvernement qui réduit la politique à une affaire domestique. Et dans ce gouvernement, comme l'écrit Montesquieu au chapitre 14 du livre 5, alors c'est page 2, vous voyez, le bas, enfin, c'est pas tout à fait en bas, c'est un passage souligné. Je vais vous le lire. Tout se réduit, vous avez repéré, c'est un petit paragraphe qui commence par « Tout se réduit à concilier le gouvernement politique et civil avec le gouvernement domestique, les officiers de l'État avec ceux du sérail. » Alors, l'expression est restée, d'ailleurs. Parce que quand on veut se moquer aujourd'hui de la domination d'un haut fonctionnaire à un poste très important, on dit malicieusement que c'est un homme du sérail. Un homme du sérail pour souligner qu'il fait partie de la maison, hein, de la maison, hein, on dit la maison, qu'il appartient en quelque sorte à la famille de ceux qui appartiennent au grand corps de l'État, hein, pas n'importe qui, hein, vous voyez, bon. Quelque chose d'un peu particulier. Bon. Alors, pour désigner les hauts responsables du gouvernement despotique, Montesquieu n'emploie pas d'autres termes que ceux qui sont employés dans l'Empire ottoman ou dans l'Empire perse, dans les empires musulmans. Ainsi, celui qui sert de gérant du gouvernement despotique, eh bien, il l'appelle le vizir. Le vizir, c'est un peu... le premier ministre, mais c'est pas exactement un ministre, hein, c'est plus que c'est un, au fond c'est celui qui s'occupe de la maison, hein, du royaume. Les cadis, ceux qu'il appelle les cadis, ce sont les juges. Et puis les bachas, pas le pacha, les bachas, B. Les bachas désignent les gouverneurs de province, voyez. Étant entendu que tout ce beau monde, hein, tous ces bachas, cadis et vizirs, sont à la merci du bon vouloir du despote. Ils peuvent être du jour au lendemain renvoyés et trucidés. Hein. Alors, quel est l'intérêt aussi de cette structure du sérail? Il y a effectivement un aspect exotique. Hein. Mais l'intérêt de cet aspect exotique du sérail, c'est surtout de dépayser la question du mal, justement, en politique, et de rompre avec le regard européen sur la question, dont je vous ai dit qu'il est marqué, au fond, par une vision chrétienne. Parce que, selon la vision chrétienne que nous avons effectivement du tyran, le tyran, c'est un prince qui est méchant. C'est un prince vicieux, par opposition, effectivement, au bon prince, qui est animé par des vertus chrétiennes, par des vertus morales, par des vertus religieuses, vous voyez. Donc, Montesquieu dépayse, en quelque sorte, la question du mal, en se référant à la structure du sérail. Et la structure, donc, du sérail permet ainsi de se libérer, de libérer, en tout cas, la question du mal, de cette approche traditionnelle qui consiste à l'aborder à partir de la personnalité du prince. Alors maintenant, examinons de plus près le fonctionnement du gouvernement despotique. Et on va d'abord considérer sa nature. Alors je rappelle ce que signifie ce terme de nature, hein, nature d'un gouvernement. C'est, comme dit Montesquieu, ce qui le fait être tel, ce qui fait qu'il est un gouvernement despotique. Alors je rappelle encore une fois la définition qu'en donne Montesquieu au premier chapitre du livre 2. Il faut sans cesse l'avoir à l'esprit, cette définition. C'est un gouvernement où un seul, sans loi et sans règles, y entraîne tout par sa volonté et par ses caprices. Montesquieu, vous voyez, donne une définition purement négative du gouvernement despotique. Quand il aborde ce gouvernement, c'est toujours pour en souligner les manques, tout ce dont il manque. Ainsi, par exemple, c'est un gouvernement qui n'a pas de loi constitutionnelle, comme le montre justement le chapitre 14 du livre 5. Il n'a pas de loi constitutionnelle et il se trouve, de ce fait, exposé, comme dit Montesquieu, à 1000 révolutions. C'est un gouvernement où il n'y a pas de loi de succession et qui tend à se confondre avec la figure du despote. C'est un gouvernement qui n'a pas de loi civile, qui protège, par exemple, la propriété des sujets. Le prince peut aller jusqu'à se déclarer propriétaire de tous les fonds de terre et il peut aussi aller se déclarer comme l'héritier de tous ses sujets. Et le plus remarquable dans tout ça, c'est surtout qu'il est un gouvernement qui n'a pas de loi fondamentale. Si on entend par loi fondamentale, des règles qui organisent sa structure. Une loi fondamentale, c'est une loi qui organise la structure du gouvernement. Ce qui fait qu'il est un gouvernement despotique. Et là, vous lisez au chapitre 5, que j'ai lu tout à l'heure, page 1, chapitre 5 du livre 2, vous lisez cette petite phrase que j'ai soulignée à la fin du premier paragraphe, l'établissement d'un vizir est dans cet état une loi fondamentale. Vous avez repéré ? Alors, ici, L'expression « loi fondamentale » est employée de manière ironique, complètement ironique, car l'établissement d'un vizir, c'est tout sauf une règle de droit, c'est tout sauf une loi fondamentale, si vous voulez. C'est seulement une règle de fonctionnement qui révèle le caractère assez misérable, justement, de ce fonctionnement. En réalité, le despote ne gouverne pas. D'ailleurs, vous avez vu dans la définition qu'il donne du gouvernement despotique, le mot « gouverner » n'y est pas. C'est un gouvernement où un seul, sans loi, sans règle, entraîne. Vous voyez, entraîne tout, par ses caprices et sa volonté. Vous voyez ? Le verbe « gouverner » n'existe pas, ici. Le despote ne gouverne pas vraiment, mais il se contente de commander. Et comme il est entièrement accaparé par sa vie de plaisir, il n'a pas le temps, il n'a ni le temps, ni la patience, ni l'envie de s'occuper des affaires de l'État. Alors je reprends ce que je vous avais lu tout à l'heure, mais je regarderai la phrase qui est juste après. Regardez bien, chapitre 5. Reprenons la deuxième phrase. Un homme à qui ses cinq sens disent sans cesse qu'il est tout, et que les autres ne sont rien, et naturellement paresseux, ignorant, voluptueux, il abandonne donc les affaires. C'est ça qui est important. Comme le despote est entièrement soumis à ses caprices, il a besoin de déléguer son pouvoir et de le transmettre à un vizir. Alors on pourrait penser, c'est l'objection qui vient à l'esprit, hein, on pourrait penser qu'il aurait intérêt à distribuer le pouvoir entre plusieurs mains, ce serait plus sûr. Mais cette solution est inenvisageable, car elle reviendrait à susciter des disputes et à provoquer des intrigues de palais. Et tout cela pour être, comme dit Montesquieu, tout cela pour être le premier esclave, parce que le vizir, au fond, c'est le premier esclave. Donc, alors c'est ce que dit d'ailleurs Montesquieu, lisez la suite du texte, hein. Mais s'il les confiait à plusieurs, il y aurait des disputes entre eux. On ferait des brigues pour être le premier esclave. Le prince serait obligé de rentrer dans l'administration. Il est donc plus simple qu'il l'abandonne à un vizir qui aura d'abord la même puissance que lui. Vous voyez, donc, le chapitre 5, souligne ainsi le caractère très paradoxal de ce gouvernement. Paradoxal, en effet, en ce que ce gouvernement a besoin de se décharger de l'exercice du gouvernement, comme on vient de le voir. Et, comme le montre la fin du chapitre, c'est un gouvernement également paradoxal dans son développement, car plus le despote cherche à accroître ses plaisirs à l'intérieur de son sérail, et plus il se détourne des affaires du gouvernement. Et c'est ce que montre donc le dernier paragraphe. Le gouvernement despotique, ici, va entrer dans un processus contradictoire qui risque de le conduire à sa perte. Parce que d'un côté, si vous voulez, la jouissance du despote exige une consommation toujours plus importante de richesses, donc un accroissement de son empire, donc des guerres de conquête. Et de l'autre côté, plus l'empire s'agrandit, plus le despote se détourne des affaires du gouvernement pour se livrer à ses plaisirs. Donc il y a un moment où ça risque d'être dangereux pour lui. Hein, si on poursuit cette logique, effectivement, le despote risque de perdre le pouvoir. Hein, c'est la meilleure façon d'aller à sa perte que de continuer sur cette logique. Lisons, si vous voulez, le paragraphe ensemble, hein, c'est ce que je viens de vous lire, mais enfin, lisons-le, le texte, regardez bien, bas de la page 5. Plus l'empire est étendu, plus le sérail s'agrandit, et plus, par conséquent, le prince est enivré de plaisir. Ainsi, dans ces États, plus le prince a de peuple à gouverner, moins il pense au gouvernement. Plus les affaires y sont grandes, et moins on y délibère sur les affaires. Alors, vous voyez, comme Montesquieu ne cesse de le souligner, le gouvernement despotique n'exige aucune intelligence, aucun savoir, en ce qu'il est entièrement subordonné à la jouissance du despote. C'est un gouvernement politique où la politique se réduit à zéro, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, l'État se confond avec un sérail. Et deux termes, d'ailleurs, reviennent constamment pour caractériser la nature de son fonctionnement, le terme de simplicité et le terme d'uniformité. Et là, je vous lis ce passage qui se trouve toujours page 2. Vous allez lire avec moi. Passage du chapitre 5, non, du livre 5, chapitre 14. Du livre 5, chapitre 14. C'est le... Ah non, je ne l'ai pas photocopié, celui-là. J'ai laissé parce qu'il n'y avait pas de classe. Alors, je vous lis, il fait partie de ce chapitre, mais je ne l'ai pas photocopié. Un gouvernement despotique saute, pour ainsi dire, aux yeux. Il est uniforme partout. Comme il ne faut que des passions pour l'établir, tout le monde est bon pour cela. Alors, il n'y a pas besoin d'être génial pour faire un gouvernement despotique. Il n'y a pas besoin de faire, vous voyez, œuvre d'intelligence pour construire un gouvernement despotique. Il suffit de prendre le pouvoir et ensuite, évidemment, de l'exercer par la crainte. À l'opposé, Montesquieu ne cessera de montrer que les gouvernements modérés sont des gouvernements qui exigent de l'intelligence. Ce sont de belles machines, bien construites, bien réglées. Exactement comme un mécanisme d'horlogerie. Il le dit surtout, notamment, de la monarchie, hein, qui est un gouvernement qui fonctionne avec une économie de moyens. Voyez, ce sont, dit Montesquieu, des chefs-d'œuvre de législation. Alors, ça exige effectivement, là, toute une compétence, tout un savoir-faire, hein, tout un travail de l'intelligence. Ce n'est pas du tout le cas du gouvernement despotique, qui est vraiment le gouvernement, je dirais, minimal. Un exemple, si vous voulez, un exemple pour illustrer la simplicité et l'uniformité de ce gouvernement despotique. C'est celui de la manière dont les peines sont conçues dans ce gouvernement. Et c'est au livre 6 qui est consacré à la question des peines. C'est au livre 6, effectivement, que Montesquieu aborde ce point. Sur le plan pénal, un gouvernement despotique, au fond, ne s'embarrasse pas de procédures et de formalités. La justice est expéditive. Et je lis, par exemple, dans le livre 6, un autre passage que, bon, je ne vous ai pas photocopié, mais vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Je cite, en Turquie, toujours en Turquie. Hein. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir qu'un jour, il y avait une conférence après la guerre, je ne suis pas un conférencier de parler de Montesquieu et des Turcs. Et il y avait des dignitaires turcs qui étaient là. Ils étaient assez vexés. Ils trouvaient ça un peu pénible, hein, qu'on ose parler ainsi du gouvernement turc. Depuis Erdogan, ça a bien changé. Alors, en Turquie, dit Montesquieu, où l'on fait très peu d'attention à la fortune, à la vie, à l'honneur des sujets, on termine promptement, d'une façon ou d'une autre, toutes les disputes. La manière de les finir est indifférente, pourvu qu'on en finisse. Donc, vous voyez, d'ailleurs, la définition que je vous ai tout à l'heure donnée du gouvernement despotique montre déjà que c'est un gouvernement dont le fonctionnement est aveugle, hein. Un seul, sans loi, sans règle, entraîne tout par sa volonté et ses caprices. Et pour exprimer d'ailleurs ce fonctionnement aveugle, Montesquieu utilise l'image d'une boule jetée aveuglément contre une autre. Je relis ce passage qu'on avait lu tout à l'heure, le livre 3, chapitre 10, première page. Livre 3, chapitre 10. Dernier texte, là, en bas à droite. Le premier paragraphe, relisons-le. Dans les États despotiques, la nature du gouvernement demande une obéissance extrême et la volonté du prince, une fois connue, doit avoir aussi infailliblement son effet qu'une boule jetée contre une autre doit avoir le sien. Cette image est vraiment significative. C'est-à-dire qu'ici, les ordres du despote se communiquent exactement comme une boule jetée aveuglément contre une autre. C'est-à-dire que le despote transmet instantanément ses ordres au vizir, qui lui-même les transmet instantanément à un officier, sans que jamais les ordres soient examinés, réfléchis, discutés. Et puis à la fin, les ordres s'abattent brutalement sur la tête des sujets, en quelque sorte, hein, comme une boule en chute libre. C'est exactement cela qui se passe dans un gouvernement despotique. C'est-à-dire que, vous voyez, les décisions sont transmises instantanément, sans aucune réflexion, hein, puisque la réflexion, ça pourrait effectivement, je dirais, introduire un délai, hein, ça pourrait freiner. Eh bien là, non, il n'y a pas de frein, c'est aussitôt. Aussitôt commandé, aussitôt exécuté, et effectivement, au bout de la chaîne, vous avez les sujets, hein, qui ramassent la boule sur le crâne. Alors, qu'en est-il maintenant du principe du gouvernement despotique? Le principe, je rappelle encore une fois, c'est la passion qui motive l'obéissance dans un gouvernement et qui permet à ce gouvernement de se conserver. Et je rappelle que la passion, ici, qui est le principe du gouvernement despotique, c'est la crainte. Alors, si on examine ce principe, on voit que le gouvernement despotique est condamné à en faire un usage maximal et constant. C'est-à-dire la crainte, en effet, ne peut se maintenir que si la menace est permanente. Sitôt que la menace se relâche, eh bien, le ressort du gouvernement despotique disparaît. Et alors, tout est perdu. Lisons ensemble le chapitre 9 du livre 3, page 1, c'est-à-dire en haut à droite. Troisième paragraphe. Un gouvernement modéré peut, tant qu'il veut et sans péril, relâcher ses ressorts. Il se maintient par ses lois et par sa force même. Mais lorsque, dans le gouvernement despotique, le prince cesse un moment de lever le bras, quand il ne peut pas anéantir à l'instant ceux qui ont les premières places, tout est perdu. Car le ressort du gouvernement, qui est la crainte, n'y étant plus, le peuple n'a plus de protecteur. Et là, effectivement, ça mérite une petite explication. Vous voyez que la menace, ici, elle vise principalement, comme dit Montesquieu, les hommes qui ont les premières places. Ce que Machiavel appelait les grands, les seigneurs, les nobles. Ceux qui pourraient justement être un danger pour le pouvoir, ce qui pourrait le renverser. C'est pourquoi, précise Montesquieu, dans un gouvernement despotique, l'honneur, qui est le principe de la monarchie, l'honneur est dangereux. Car il peut conduire des hommes, notamment les grands, à refuser d'obéir à un ordre qu'ils jugent infamant, et à risquer leur vie pour résister au pouvoir. Et d'ailleurs, c'est ce que dit, un peu plus loin d'ailleurs, Montesquieu, dans le même chapitre, bon, je vous lis le passage, « Des gens capables de s'estimer beaucoup eux-mêmes seraient en état d'y faire des révolutions. » Donc ces gens dans une monarchie, c'est qui, en général? Ce sont les nobles. hein, ce sont les nobles, qui tiennent à leur rang, à leurs privilèges, à leurs prérogatives, et qui par là constituent un frein à toute dérive despotique de la monarchie. Et qu'est-ce qui s'est passé un siècle avant que Montesquieu fasse paraître l'esprit des lois en France? Il a fait paraître l'esprit des lois en 1748. En 1648, 1650, qu'est-ce qui s'est passé en France? La Fronde. Ah, la Fronde. La Fronde, ça a été une réaction des nobles à la montée de l'autorité monarchique. Parce que il y avait la guerre contre l'Espagne. Et donc, on avait besoin de récolter des impôts, on avait besoin de renforcer le pouvoir du roi pour mener cette guerre. Hein, économie de guerre. Bon. Eh bien, effectivement, il fallait effectivement visser. Bon. Et donc, dans ces conditions, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les privilèges des nobles ont été remis en cause. Hein, et ils ont très mal réagi. Ils ont très mal réagi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une révolte extrêmement, extrêmement importante, hein, de la noblesse. Et à ce moment-là, Louis XIV avait 5 ans. Hein. Mais c'était sous quelle impulsion, effectivement, que la monarchie absolue, hein, enfin la monarchie du roi, devenait de plus en plus importante, de plus en plus absolue? C'était sous l'impulsion des grands ministres que furent Richelieu, puis ensuite Mazarin, voyez. Donc là, Montesquieu a ça à l'esprit, si vous voulez, quand il écrit. Hein, et il est très inquiet de la dérive despotique de la monarchie française. Hein, celle de Louis XIV, qui s'est un peu relâchée avec la Régence. Quand Louis XIV est mort, en 1715, effectivement, la Régence a rétabli un certain nombre de prérogatives des parlements, par exemple. Mais c'est assez fragile. Donc, en tout cas, vous voyez que les premiers à être frappés, alors c'est ce qu'a fait Louis XIV. Qu'est-ce qu'il a fait, Louis XIV? Quand un noble, un seigneur, un grand lui déplaisait, il l'écartait, hein. Je pense que c'était celui qui avait inspiré le château, enfin, dont le château avait inspiré le château de Versailles. Comment il s'appelle? Fouquet, hein? C'est ça. Bah, il a été arrêté, hein, il a été jeté au cachot. Hein. Bon. Donc, vous voyez que vous avez là une logique despotique qui est constamment à l'esprit de Montesquieu. Et c'est ça qu'il vise, hein. En un certain nombre de ces passages. En tout cas, ce qui est certain, c'est que donc, le gouvernement despotique fait un usage maximal et constant de son principe, donc la crainte, et on peut même dire qu'il fait un usage dispendieux de ce principe qui est en contraste avec l'usage économique, par exemple, que la monarchie fait de son propre principe. Hein, la monarchie, encore une fois, elle fonctionne avec une économie de moyens. Alors, on va voir d'ailleurs que le gouvernement despotique fait un usage de la répression et des peines les plus sévères, qui est assez systématique. Et comme va le montrer Montesquieu, en s'inscrivant en faux contre un préjugé, eh bien, on croit le plus souvent que plus un gouvernement est répressif, plus il est fort, plus il est puissant. Eh bien, Montesquieu va montrer que c'est exactement l'inverse. Car loin que l'usage de la force, surtout si cet usage est excessif, loin que cet usage de la force soit le signe de la puissance d'un gouvernement, c'est exactement l'inverse qui est vrai. C'est parce qu'il est impuissant qu'un gouvernement recourt surtout à la force et à la répression. Et il suffit, pour s'en convaincre, de réfléchir à l'usage qu'un gouvernement despotique fait des peines. Le problème, d'ailleurs, du droit pénal, le problème de l'exercice des peines, est un sujet auquel Montesquieu accorde beaucoup d'importance. Il y consacre un livre entier, le livre 6. Alors on croit le plus souvent que plus les peines sont sévères et plus elles sont efficaces. et dissuasive. Et dans les gouvernements despotiques, les peines sont d'une extrême sévérité, puisqu'elles doivent sans cesse entretenir la crainte. Alors qu'elles sont beaucoup plus douces dans les gouvernements modérés, qui n'ont pas autant besoin de réprimer. Or, que constate-t-on ? Eh bien, on constate que plus les hommes s'habituent à des peines sévères, plus ils deviennent endurcis, insensibles, et moins les peines sont dissuasives. Ainsi, c'est ce que va montrer d'ailleurs dans un chapitre, le chapitre 12 du livre 6, Montesquieu, que nous allons lire. Dans les gouvernements despotiques, vous assistez à une véritable spirale infernale. Comme le seuil de sensibilité des hommes diminue pour des peines qui sont déjà très sévères, parce qu'ils sont accoutumés, au fond, à subir des peines extrêmement sévères, eh bien, comme le seuil de sensibilité des hommes diminue, donc pour des peines qui sont déjà très sévères, eh bien, ces gouvernements croient efficaces de recourir à des peines encore plus sévères. Et vous assistez à une surenchère qui n'a pas de fin et qui est complètement dérisoire. Et c'est ce que Montesquieu va expliquer donc dans un chapitre, le chapitre 12 du livre 6, que je vous ai photocopié, et que nous pouvons lire largement. Hein, en tout cas, on peut le lire ensemble, là, c'est facile, c'est assez compréhensible. Vous l'avez ? C'est page 2, à droite, en bas. De la puissance des peines. L'expérience a fait remarquer que dans les pays où les peines sont douces, l'esprit du citoyen en est frappé, comme il l'est ailleurs par les grandes. Quelque inconvénient se fait-il sentir dans un État ? Un gouvernement violent veut soudain le corriger. Et au lieu de songer à faire exécuter les anciennes lois, on établit une peine cruelle qui arrête le mal sur le champ. Vous voyez, on veut réagir immédiatement. Pas attendre. Il faut sanctionner tout de suite. Et sévèrement. Mais on use le ressort du gouvernement, c'est-à-dire la crainte. L'imagination se fait à cette grande peine, comme elle s'était faite à la moindre. Et comme on diminue la crainte pour celle-ci, l'on est bientôt forcé d'établir l'autre dans tous les cas. Exemple, les vols sur les grands chemins étaient communs dans quelques États. On voulut les arrêter. On inventa le supplice de la roue, qui les suspendit pendant quelques temps. À ce moment, oui, ça se calme un peu. Mais après, ça reprend. Depuis ce temps, on a volé, comme auparavant, sur les grands chemins. Ça n'a rien changé. On vole toujours autant, même si les peines sont plus fortes. De nos jours, la désertion fut très fréquente. On établit la peine de mort contre les déserteurs. Et la désertion n'est pas diminuée. La raison en est bien naturelle. Un soldat, accoutumé tous les jours à exposer sa vie, en méprise ou se flatte d'en mépriser le danger. Il est tous les jours accoutumé à craindre la honte. Il fallait donc laisser une peine qui faisait porter une flétrissure pendant la vie. On a prétendu augmenter la peine et on l'a réellement diminuée. Alors je précise, j'expliquais un peu l'exemple. Dans autrefois, avant qu'on condamne à mort le déserteur, eh bien, on punissait en marquant le corps. On désignait par là que cet homme avait été déserteur, donc il était condamné à l'infamie en quelque sorte. Hein. Son crime était marqué, et c'était la honte pour lui. Ça, c'était terrifiant. Alors, depuis qu'on a considéré que c'était plus efficace, plus dissuasif d'instaurer la peine de mort pour les déserteurs, finalement, on a cru augmenter la peine, en fait, on l'a diminuée. Parce qu'un soldat a finalement beaucoup moins de peur de braver la mort. La conclusion est remarquable. Il ne faut point mener les hommes par les voies extrêmes. On doit être ménagé des moyens que que la nature nous donne pour les conduire, les moyens que la nature nous donne pour les conduire, c'est qu'ils ont une sensibilité qui a des limites. Ils ont une sensibilité qui a des limites. Ils ont une biologie, si vous voulez, une physiologie dont il faut tenir compte. Qu'on examine la cause de tous les relâchements, on verra qu'elle vient de l'impunité des crimes et non pas de la modération des peines. Vous voyez, tous les régimes autoritaires, tous les régimes despotiques insistent sur la sévérité. Il faut terroriser, il faut marquer, etc. Et en fait, on croit effectivement que c'est dissuasif. On finit par accoutumer les hommes, effectivement, à des peines extrêmement sévères, et ça ne change pas leur attitude. Ça la change sur le moment. Par contre, ce qui est vraiment préjudiciable, ce qui peut effectivement encourager la criminalité et la développer, c'est l'impunité. C'est ça qui est beaucoup plus redoutable. Donc, vous voyez, ici, un gouvernement despotique ne peut pas avoir, ne peut pas être intelligent, ne peut pas avoir un usage effectivement intelligent de l'administration des peines. Il frappe, c'est tout. De façon aveugle. Et ce n'est pas seulement dans le domaine des peines, mais dans tous les domaines, qu'un gouvernement despotique est un gouvernement voué à l'impuissance, un gouvernement qui court à l'échec. Le gouvernement despotique est un gouvernement, comme on l'a dit, comme on l'a vu, où le despote se contente de vouloir et de commander, sans réflexion, sans projet à long terme. Eh bien, pour illustrer, si vous voulez, cette volonté immédiate du despote qui se contente de vouloir, eh bien, Montesquieu utilise l'exemple des Indiens de Louisiane, au chapitre 13, très très court chapitre du livre 5, page 2, en haut à gauche. Vous voyez, très court chapitre, il fait 3 lignes. On le lit ensemble. Quand les sauvages de la Louisiane veulent avoir du fruit, ils coupent l'arbre au pied et cueillent le fruit. Voilà le gouvernement despotique. Alors, bon, petite remarque au préalable. Bon, il y a un préjugé ethnocentrique de Montesquieu. Vous savez que la Louisiane vient d'être conquise, hein, bon. C'est une terre française, c'est à nous, à l'époque. Hein, bon, et d'une certaine façon, effectivement, c'est à ces Indiens que fait référence Montesquieu. Bon. Mais, bon, on laisse de côté, si vous voulez, son préjugé. Ce qui est intéressant, c'est la signification de cet exemple. Au fond, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en voulant du fruit, par n'importe quel moyen, eh bien, ces Indiens, au fond, se nuisent à eux-mêmes. Ils coupent l'arbre au pied, sans réfléchir un instant, qu'ils pourraient à nouveau donner des fruits. Eh bien, c'est exactement la façon dont procède le despote. Le despote qui vise à satisfaire immédiatement sa volonté, tous ses désirs, sans aucune réflexion, ben, il ne réfléchit pas aux moyens, finalement, de réaliser ses désirs, et finalement, il finit par travailler contre lui. Comme les Indiens, il recourt, notamment, à une dépense excessive de moyens. On l'a vu, avec l'usage de la répression. Hein, il utilise, au fond, une débauche de moyens pour obtenir l'effet voulu, et ce faisant, il aboutit à la ruine de l'État. Et son principe, justement, qui est la crainte, eh bien, n'a qu'une efficacité, comme on l'a vu, qu'à court terme. Elle n'a une efficacité qu'à court terme. Car, au fond, sur la durée, elle est foncièrement contre-productive. Et là, c'est ce que montre Montesquieu dans le chapitre 14 du livre 5. D'abord, elle produit un cercle vicieux qui condamne le pouvoir à l'instabilité. Elle pousse les hommes à se rebeller pour échapper à un sort funeste. C'est ainsi, comme le montre Montesquieu dans ce chapitre, que les princes de sang voient que s'ils ne prennent pas le pouvoir, ben, ils seront enfermés et mis à mort. Donc ils ont intérêt à se rebeller, ils ont intérêt à prendre le pouvoir, à faire un coup d'État, vous voyez. Sinon, ben, leur vie est menacée, hein, parce que le despote ne les laissera pas tranquilles. Bon, première chose. En outre, la crainte stérilise tout. C'est une passion inhibitrice et destructrice qui conduit les sujets à l'inertie, qui éteint leur capacité, qui les dissuade de se consacrer à des projets. Vous avez, regardez bien, toujours dans ce chapitre 14, page 2, regardez un passage, c'est le bas de la page, le bas de la page à gauche. Dernier paragraphe. Dans ces états, on ne répare, on n'améliore rien. Vous l'avez sous les yeux ? On ne bâtit de maison que pour la vie. On ne fait point de fossés. On ne plante point d'arbres. On tire tout de la terre. On ne lui rend rien. Tout est en friche. Tout est désert. Enfin, dernier point, la crainte condamne les hommes à vivre isolés les uns des autres. Dans un extrait du livre 4 consacré à la question de l'éducation, Montesquieu écrit concernant les états despotiques que dans les états despotiques, chaque maison est un empire séparé. Les hommes n'ont pas de lien. Il n'y a pas de société. Il n'y a pas de vraie société. Or, souvenons-nous de ce que Montesquieu montrait au début de l'Esprit des lois. Vous vous souvenez ? Précisément au début du chapitre 3 du premier livre, je vous le rappelle. Il montrait que dès que les hommes sont en société, ils perdent le sentiment de leur faiblesse. Sentiment qui est le leur dans ce qu'on appelle l'état de nature. Et sentiment qui les pousse d'ailleurs à se craindre mutuellement et à se fuir les uns les autres. Vous vous souvenez de ça ? Et dès qu'ils entrent en société, eh bien, ils perdent ce sentiment de faiblesse, ils se sentent forts, et comme ils se sentent forts, ils entrent alors dans un état de guerre, les uns contre les autres. Et dans cet état de guerre, chaque particulier, je cite Montesquieu, cherche à tourner en sa faveur les principaux avantages de la société. Chaque particulier cherche à tourner en sa faveur les principaux avantages de la société. Ce sont les termes de Montesquieu. Et pour sortir de cet état de guerre qui expose les uns et les autres à la violence, eh bien, les hommes doivent s'unir pour établir des lois qui leur permettent de vivre en paix et en sécurité. C'est-à-dire, effectivement, ils ont intérêt à sortir d'un tel état de guerre en établissant des lois. Et c'est ainsi que naît la société civile. Donc voyez qu'en fait, ici, le gouvernement despotique, eh bien, il ramène les hommes à l'état de guerre, qui précède justement une véritable société avec des lois. Il ramène les hommes à l'état de guerre en prenant le pouvoir pour s'accaparer à son avantage exclusif, hein, les principaux avantages de la société. Vous voyez, en prenant le pouvoir pour s'accaparer les principaux avantages de la société, eh bien, le despote, au fond, asservit les autres hommes, il détruit tout lien social et il expose sans cesse les hommes à son arbitraire. Vous voyez que son pouvoir fait régresser les hommes dans un sentiment archaïque de faiblesse et de crainte. Celui qui était décrit par Montesquieu pour caractériser au départ l'état de nature. Vous vous souvenez ? Et les hommes vivent à ce moment-là comme des bêtes traquées. Comme des bêtes traquées que le contact avec les autres hommes effraie. Vous voyez ? Ils ont peur de tout. Ils sont dans la crainte. Au fond, le despotisme, c'est une société infernale où non seulement on a peur du pouvoir, mais on a peur les uns des autres. Vous voyez ? Et comme, il rappelle dans ce chapitre 2 du livre 1er, vous vous souvenez, il comparer les hommes à l'état nature, à ces individus qu'on avait trouvés dans les forêts de Hanovre, qui vivaient isolés, hein, qui est loin de la société, et qui étaient extrêmement effrayés dès qu'il y avait un contact humain. Il écrivait la chose suivante, « Tout les fait trembler, tout les fait fuir. » Eh bien, c'est exactement à cela que se trouvent ramenés les hommes, donc, par le gouvernement despotique. C'est dans cette condition qu'ils tombent. Et à l'opposé du gouvernement despotique, eh bien, les gouvernements modérés, eux, délivrent les hommes de la crainte en instaurant des lois. Et ils leur permettent de jouir vraiment des avantages de la vie sociale. Parce que seules des lois politiques et civiles, sont en mesure de supprimer, sinon de réprimer, l'arbitraire et la violence. Vous voyez ? Il faut que l'arbitraire et la violence soient réprimés, soient contenus, pour qu'une vie sociale soit possible. Mais comme je l'ai dit, le despotisme ne désigne pas seulement le gouvernement despotique. Il désigne aussi la tendance qui menace les gouvernements modérés quand ils ne limitent pas, quand ils ne modèrent pas l'exercice du pouvoir. Et le grand danger, en effet, qui guette ces gouvernements, que ce soit des républiques ou des monarchies, hein, le grand danger qui guette ces gouvernements, c'est ce que Montesquieu appelle l'abus de pouvoir. Et l'abus de pouvoir, c'est une menace permanente. C'est une menace permanente qui tient à la nature même du pouvoir. Le pouvoir tend de lui-même toujours à s'accroître. Le pouvoir n'a pas de limite si vous le laissez s'exercer, justement sans limite. Quel que soit d'ailleurs celui qui détient le pouvoir, quel que soit son détenteur, et vous connaissez certainement ce célèbre passage du chapitre 4 du livre 11 de Montesquieu, que tout le monde cite, je cite, « C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. » Je vous relis, si vous voulez, cette formule. « C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. » Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Et comme on aura l'occasion de voir, eh bien, un gouvernement tombe dans l'abus de pouvoir, même s'il est modéré, quand il concentre dans les mêmes mains tous les pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires. C'est la concentration des pouvoirs qui, effectivement, permet le développement du despotisme. Et c'est pourquoi le problème essentiel sera celui de savoir comment éviter ce danger. Comment éviter qu'un gouvernement modéré, aujourd'hui on dirait un état de droit, ne tombe dans le despotisme. Mais ici, il faut distinguer deux cas de figure, si vous voulez. Comme l'explique d'ailleurs Montesquieu au livre 8. Le livre 8 qui concerne la corruption des gouvernements. Dans ce livre 8, il distingue deux cas de figure. Et je vous ai photocopié les chapitres du livre 8 qui nous concernent. Page 3. Il y a deux cas de figure, deux types de corruption, si vous voulez, pour un gouvernement modéré. Lisez avec moi le début du chapitre 8. L'inconvénient n'est pas lorsque l'État passe d'un gouvernement modéré à un gouvernement modéré, comme de la République à la monarchie ou de la monarchie à la République. Bon, à la limite, si c'est cette corruption, c'est pas bien méchant. Mais quand il tombe et se précipite du gouvernement modéré au despotisme, c'est le deuxième cas de figure qui pose problème. Parce que là, vous avez vraiment une chute. Hein, le mot est important, une chute dans le despotisme. Il tombe et se précipite. Vous voyez ? Une catastrophe, quoi. Un effondrement du gouvernement dans le despotisme. Et c'est ce à quoi il faudra surtout réfléchir quand on réfléchira aux conditions qui assurent la liberté politique. Alors on peut illustrer cette chute en prenant deux cas. Celui de la démocratie, qu'on a déjà étudié, et puis celui de la monarchie. La démocratie, quand tombe-t-elle dans le despotisme? La monarchie, quand tombe-t-elle dans le despotisme? Je prends le premier exemple, la démocratie. Et là, vous vous souvenez, on a déjà vu ça. La démocratie risque de tomber dans le despotisme lorsque les passions du peuple commandent. Lorsqu'il exerce un pouvoir absolu. C'est pourquoi Montesquieu considère que ce régime n'est viable que s'il contient et modère les passions du peuple. Si l'on fait appel à des procédures aristocratiques qui le tempèrent. Et parmi ces procédures aristocratiques qui tempèrent ici les passions du peuple, il y a l'élection, puisque l'élection, c'est une procédure aristocratique, je rappelle. On élit celui qu'on estime être le meilleur. Si la démocratie était intégrale, si elle s'exerçait uniquement selon ses propres procédures, eh bien, les magistrats seraient tirés au sort et ne seraient pas élus. Vous vous souvenez de ce que nous avions dit? Bon, eh bien voilà, hein, vous voyez que il faut trouver pour Montesquieu des dispositifs qui évitent, vous voyez, que la démocratie tombe dans le despotisme. Un exercice direct de la démocratie, pour Montesquieu, c'est dangereux. Deuxième cas de figure, deuxième exemple, la monarchie. La monarchie tombe dans le despotisme quand le pouvoir du roi est absolu et qu'il n'est pas tempéré par ce qu'il appelle les corps intermédiaires. Alors c'est assez amusant aujourd'hui, l'expression de corps intermédiaire est revenue très à la mode, alors que en fait on ne devrait parler de corps intermédiaires que pour une monarchie. C'est peut-être d'ailleurs parce qu'on pense qu'on a affaire aujourd'hui à une monarchie. Mais vous voyez, les corps intermédiaires, ça n'existe que dans une monarchie. C'est qui les corps intermédiaires? La noblesse, les parlements et le clergé, dans une monarchie. Vous voyez? Les parlements, par exemple, disposent d'un droit de remontrance dans la monarchie. C'est-à-dire qu'ils expriment, quand le roi ordonne, hein, quand il promulgue une ordonnance, eh bien, le parlement, les parlements peuvent effectivement exprimer des remontrances qu'il faut remonter au roi pour lui faire part de leurs objections, de leurs réserves. Et d'une certaine façon, ça tempère le pouvoir du roi. À la fin, c'est toujours lui qui décide dans la monarchie. Mais vous voyez que l'ordre du roi n'est pas immédiatement exécuté. Il y a un temps de délai, de réflexion, parce qu'il y a les corps intermédiaires. Vous voyez ? Dans tous ces cas de figure, que ce soit la démocratie ou la monarchie, hein, le despotisme apparaît comme une potentialité négative, comme une tendance corruptrice, dont aucun gouvernement modéré ne peut s'estimer par avance exempté. Tous les gouvernements modérés peuvent, un jour ou l'autre, être menacés de despotisme. Vous voyez ? On pourrait le dire de façon moderne en disant tout état de droit risque effectivement de se déliter, de se décomposer et de se transformer en état despotique s'il laisse aller un certain nombre de tendances. Quant au gouvernement despotique lui-même, Montesquieu montre qu'il s'agit d'un gouvernement intrinsèquement corrompu qui tend de lui-même à se détruire et qui, normalement, ne devrait pas pouvoir se maintenir dans l'existence. C'est ça qui est intéressant. Et c'est là tout le paradoxe de ce gouvernement. Comme l'écrit Montesquieu, dans le chapitre qui est juste après, chapitre 10, de la corruption du principe du gouvernement despotique, comme il l'écrit dans ce chapitre, très court, le gouvernement despotique est un gouvernement qui périt par son vice intérieur. J'explique. Il périt par son vice intérieur. C'est-à-dire que la nature vicieuse de son principe, qui est la crainte, hein, le principe du gouvernement despotique, c'est encore une fois la crainte, je le rappelle. Eh bien, c'est un principe vicieux. Il a une nature vicieuse. Eh bien, la nature vicieuse de son principe corrompt interrompt sans cesse le gouvernement despotique et explique que normalement il ne puisse pas durer. Normalement, il ne devrait pas pouvoir se conserver, étant donné la nature vicieuse, justement, de la crainte. Et c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est ce qu'on avait montré. Hein, vous vous rappelez que c'est une passion contre-productive qui inhibe toutes les capacités humaines et qui rend impossible toute véritable société. Hein, c'est ce qu'on a montré. Bon. Eh bien, toute la question est là. Mais si, normalement, un gouvernement despotique ne devrait pas pouvoir exister, ne devrait pas pouvoir se maintenir dans l'existence, comment expliquer ? Comment expliquer alors ? Qu'il puisse y avoir réellement des gouvernements despotiques. Comment expliquer qu'on puisse constater qu'il y en a. Et là, il y a un autre paradoxe que souligne d'ailleurs Montesquieu, encore dans le même chapitre, le fameux chapitre 10 du livre 8. Et là, je vous invite à le lire avec moi. Le principe du gouvernement despotique se corrompt sans cesse. Parce qu'il est corrompu par sa nature de principe. Les autres gouvernements périssent parce que des accidents particuliers en violent le principe. Celui-ci, il parle du gouvernement despotique, celui-ci périt par son vice intérieur, lorsque quelque cause accidentelle n'empêche point son principe de se corrompre. Il ne se maintient donc que quand des circonstances tirées du climat, de la religion, de la situation ou du génie du peuple, le force à suivre quelque ordre et à souffrir quelques règles. Ces choses forcent sa nature sans la changer. Sa férocité reste, elle est pour quelque temps apprivoisée. Alors, j'explique un peu tout de même. Le gouvernement despotique, vous voyez, comme je l'ai dit, il ne devrait pas normalement subsister. Il devrait de lui-même se corrompre et périr. Mais s'il ne périt pas dans les faits, c'est, comme le montre ici Montesquieu, c'est par des causes accidentelles, c'est-à-dire par des facteurs extérieurs qui sont indépendants de sa nature. Ce sont des facteurs extérieurs indépendants de sa nature qui l'empêchent de périr. Et quels sont ces facteurs extérieurs indépendants de la nature du gouvernement despotique ? C'est le climat, ça peut être le climat, ça peut être la religion. Ça peut être le génie d'un peuple, etc. Vous voyez, il y a des facteurs extérieurs à la nature du gouvernement despotique qui peuvent exercer une influence telle que ce gouvernement ne va pas pouvoir se laisser aller à sa pente. Et c'est ce que nous allons montrer par un exemple. Et nous terminons par cet exemple. Donc, vous voyez, je répète, le gouvernement despotique se maintient lorsque des circonstances, comme dit Montesquieu, lorsque des circonstances tirées du climat ou de la religion ou autre chose encore le forcent à ne pas suivre sa pente et à s'ordonner. Normalement, un gouvernement despotique ne devrait pas s'ordonner. Bon. Et pour illustrer ce point, l'un des meilleurs exemples, c'est celui du gouvernement chinois, dont l'apparence d'ordre peut faire croire qu'il n'est pas un gouvernement despotique. Et cet exemple est abordé dans le dernier chapitre du livre 8, le chapitre 21, dont je vous ai photocopié de larges extraits. Vous l'avez après. Et regardez comment ça commence. Avant de finir ce livre, je répondrai à une objection qu'on peut faire sur tout ce que j'ai pu dire jusqu'ici. Nos missionnaires, parce qu'il y a beaucoup de missionnaires qui partent là-bas en Chine pour évangéliser. Bon. Il y a quelques commerçants aussi. Nos missionnaires nous parlent du vaste empire de la Chine comme d'un gouvernement admirable qui mêle ensemble dans son principe la crainte, l'honneur et la vertu. J'ai donc posé une distinction vaine lorsque j'ai établi les principes des trois gouvernements. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que j'ai dit est complètement faux. Regardez, nos missionnaires nous racontent que le gouvernement de la Chine, c'est vraiment un gouvernement admirable. Il réunit les trois principes que moi j'ai distingués. Donc tout ce que j'ai dit est faux. Vous voyez, objection par le gouvernement despotique. Et il va falloir répondre à cette objection. Alors évidemment, vous me direz que les choses n'ont pas franchement changé, parce que vous voyez qu'aujourd'hui, il y a encore des missionnaires qui reviennent de Chine, qui trouvent ça admirable. Il y a la reconnaissance faciale à toutes les rues, c'est formidable. Il y a un ordre, c'est bien rangé, c'est bien administré, la Chine. Vous voyez, bon, il y a toujours une fascination pour la Chine, même aujourd'hui. Vous avez un ancien Premier ministre qui, quand il revient en Chine, est toujours extasié. Tout ça, toujours admirable. Je pense à lui à chaque fois que je lis ce passage de Montesquieu. Alors, donc Montesquieu va s'employer, dans le reste du chapitre, à répondre à cette objection. Et qu'est-ce qu'il va montrer? Il va montrer que l'empereur chinois, je résume, l'empereur chinois est bien un despote, mais qui ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est contraint, pour conserver son pouvoir, de tenir compte de la force du climat qui exerce une influence considérable dans la plupart des régions de son empire. On a affaire en Chine à un climat chaud. À un climat chaud pour la plupart des régions. Qui, en stimulant la fécondité des femmes, voilà, je ne vous passe l'explication, ça c'est peut-être une théorie un peu fantaisiste de l'époque, mais enfin, le climat chaud stimule la fécondité des femmes, il entraîne une démographie galopante, et il expose alors l'Empire chinois à des famines, parce que comment nourrir tous ces gens-là? Et ces famines, elles risquent elles-mêmes d'entraîner des soulèvements populaires. Et ces soulèvements populaires, ils risquent effectivement de déchoir l'empereur chinois. Ils risquent de le renverser. Alors, vous voyez que l'empereur de Chine est contraint en conséquence, malgré lui, parce qu'il ne peut pas faire autrement, de s'occuper de son peuple et de veiller à ce qu'il puisse assurer sa subsistance. Comme le dit ici Montesquieu, par un travail infatigable, c'est vers la fin. C'est-à-dire, au fond, l'empereur de Chine va devoir s'occuper de l'économie de son empire et de mettre tout le monde au travail, en quelque sorte, dans les champs, pour pouvoir assurer la subsistance du peuple, pour éviter les famines. Et on peut lire ici la fin du chapitre, à partir du milieu là, de la page. Telle est la nature de la chose, voyez ? Vous avez trouvé ? Bon. Telle est la nature de la chose, que le mauvais gouvernement y est d'abord puni, le désordre inné soudain parce que ce peuple prodigieux y manque de subsistance. Ce qui fait que dans d'autres pays, on revient si difficilement des abus, c'est qu'ils n'y ont pas des effets sensibles. Le prince n'y est pas averti d'une manière prompte et éclatante comme il l'est à la Chine. Il ne sentira point, comme nos princes, que s'il gouverne mal, il sera moins heureux dans l'autre vie, moins puissant et moins riche dans celle-ci. Il saura que si son gouvernement n'est pas bon, il perdra l'empire et la vie. Comme malgré les expositions d'enfants, le peuple augmente toujours à la Chine, il faut un travail infatigable pour faire produire aux terres de quoi le nourrir. Cela demande une grande attention de la part du gouvernement. Il est à tous les instants intéressé à ce que tout le monde puisse travailler, sans crainte d'être frustré de ses peines. Ce doit être moins un gouvernement civil qu'un gouvernement domestique. Vous voyez, c'est comme une maison, encore une fois. Voilà ce qui a produit les règlements dont on parle tant. On a voulu faire régner les lois avec le despotisme, mais ce qui est joint avec le despotisme n'a plus de force. En vain, ce despotisme, pressé par ses malheurs, a-t-il voulu s'enchaîner? Il s'arme de ses chaînes et il devient plus terrible encore. La Chine est donc un État despotique, dont le principe est la crainte. Peut-être que dans les premières dynasties, l'Empire n'étant pas si étendu, le gouvernement déclinait un peu de cet esprit, mais aujourd'hui, cela n'est pas. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce que nous permet surtout de comprendre l'exemple du gouvernement chinois ? Bien que s'il se laissait aller à son vice intérieur, à sa tendance corruptrice, il ne ferait pas long feu, il serait très vite renversé, Et si ce gouvernement despotique se maintient, c'est parce qu'il est contraint donc par la force du climat, dont les effets sont considérables, et parce qu'il doit produire, à ce moment-là, des règlements et organiser économiquement le pays pour éviter des conséquences désastreuses qui entraîneraient sa perte. Et on voit en définitive, si on réfléchit à l'ensemble des gouvernements, on voit en définitive qu'aucun gouvernement, pas même le gouvernement despotique, ne peut subsister sans des limites. À défaut des limites intérieures que fixent les lois dans les gouvernements modérés, un gouvernement despotique ne se maintient que par les limites extérieures qu'il rencontre, comme celle du climat. Et c'est bien la conclusion qu'on peut ici tirer de l'exemple chinois. Alors, vous voyez, ce soir, nous avons examiné le gouvernement despotique, nous avons présenté cette potentialité négative qui menace tous les gouvernements modérés que l'on appelle le despotisme. Eh bien, la prochaine fois, il nous faudra examiner les conditions qui permettent justement de freiner cette potentialité, de freiner cette tendance, de la contrecarrer et d'assurer la liberté politique dans les gouvernements modérés. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Voilà. Donc, alors, bien sûr, il y a un aspect historiquement daté du texte, mais bon, la réflexion de Montesquieu va inspirer beaucoup Hannah Arendt. Hein. Elle ne va pas la reprendre telle qu'elle, mais d'une certaine façon, elle va un peu reprendre sa méthode pour penser le totalitarisme. On parlera une autre fois, si vous voulez. Alors, je suis à vos questions. Ou à vos remarques. Ou... Oui ?
J'ai peur d'être l'écume, mais ce n'est pas très grave. Est-ce que vous pouvez citer trois pays dont le gouvernement est despotique ?
Aujourd'hui ?
Oui.
trois, je pense qu'on peut en mettre multiplié par... Et puis, il y a des tendances despotiques aussi, même dans des gouvernements dont on pourrait penser que normalement, ils ne devraient pas se laisser aller.
Et officiellement, ils ont quel gouvernement ? Officiellement,
Quels sont les gouvernements officiellement qui le sont ?
Oui.
Mais aucun gouvernement ne va se dire despotique, déjà. Ça aura marqué. Et aujourd'hui, il n'y a pas un seul gouvernement, même autoritaire, qui prétende gouverner de façon despotique. Donc vous voyez que si vous dites qu'il est despotique, c'est parce que vous en faites une critique de son fonctionnement. Et si Montesquieu peut nous être utile, c'est dans la mesure où il nous permet d'une certaine façon, je dirais, d'analyser le fonctionnement d'un gouvernement et de voir ce qui peut en lui... y avoir de despotique. Alors, aujourd'hui, on parle de gouvernements illibéraux. Vous avez entendu parler de ça ? C'est-à-dire qu'on veut par là désigner des gouvernements qui ont encore une forme minimale de démocratie et des élections, si vous voulez, c'est vrai, mais dans lesquels, au fond, le caractère d'état de droit est en train de s'effriter. Il n'y a plus de contre-pouvoir. Il y a une concentration des pouvoirs. C'est une tendance lourde de beaucoup de gouvernements. On ne peut pas dire que le nôtre soit totalement exempté. Vous voyez, c'est vrai particulièrement depuis quelques années. Hein. C'est vrai, un gouvernement, par exemple, on parle de la Hongrie, par exemple. Un État hongrois, bon, c'est un État illibéral. Hein. Il y a une concentration considérable du pouvoir dans les mains, effectivement, du chef d'État. Le gouvernement russe... qui, au départ, a une constitution très proche de la nôtre. Hein. Ah oui, la constitution russe est inspirée de la constitution de la Ve République, hein, au départ. Mais elle a beaucoup évolué. Elle était beaucoup remaniée. C'est vrai. Mais bon, vous voyez, c'est une des tendances. Hein. En fait, les choses sont pas. Ce qui est intéressant avec Montesquieu, c'est que les choses, il montre que les choses sont pas tranchées comme ça. Il n'y a pas d'un côté un bon gouvernement qui sera toujours bon, pur, hein, comme on dit, belle démocratie, exempte de tout défaut, qui risque pas de tomber, de dériver dans le despotisme. Et puis, de l'autre côté, il y aurait les mauvais gouvernements. Non, les choses sont pas tout blanc tout noir. Hein. Il peut y avoir des tendances. Hein. Oui. Alors, excusez-moi, après, allez-y.
Je remarquais simplement que les gouvernements, ils étaient comme les humains qui les pratiquent, c'est-à-dire qu'ils les font bouger, même par de berceux, c'est-à-dire que la façon d'exercer le pouvoir fait automatiquement, presque automatiquement, des dérives.
La façon d'exercer, puis il y a aussi des il faut bien prendre des mesures qui infléchissent, qui changent tout de même les choses. Enfin, je sais pas, il y a des. On va prendre des exemples concrets, on aura l'occasion de revenir là-dessus. C'est vrai que d'une certaine façon, depuis les années 2000, aux États-Unis et aussi dans les pays occidentaux, il y a des changements tout de même manifestes. Il faut bien le reconnaître. Il y a l'état d'urgence. Vous voyez, l'état d'urgence, c'est une situation normalement temporaire, qui est destinée à éviter un danger immédiat. Parce que le terrorisme, parce que il y a le Covid, parce que il y a ceci, parce qu'il y a ça. Et à chaque fois, l'état d'urgence permet de mettre en place des mesures d'exception, qui sont des mesures, qu'on le veuille ou non, liberticides, qui restreignent les libertés. Alors on peut se dire, oui, mais c'est momentané. Sauf qu'après, c'est inscrit dans le droit. Ça devient durable, ça se pérennise. Vous voyez, donc c'est par là que vous avez une évolution despotique. Parce que c'est vrai que, un état de droit, c'est un état qui protège les citoyens, non seulement les uns des autres, de l'arbitraire des autres, mais aussi de l'arbitraire du gouvernement. Plutôt du pouvoir exécutif. Parce que le mot gouvernement, c'est toujours pareil, il est ambigu. Le gouvernement, pour Montesquieu, c'est, au fond, synonyme d'État. Hein. Nous, ce que nous entendons par gouvernement, c'est l'exécutif. Hein. Bon. Donc, effectivement, il peut y avoir une évolution dans le sens d'une concentration des pouvoirs. Quand les juges sont... Je sais pas, quand la justice n'est pas indépendante, ça pose un problème. Vous voyez ? Ou quand le Parlement est réduit à rien, à pas grand-chose, ça pose un problème. Vous voyez ? Bon, donc là, effectivement, ça se jauge au cas par cas. Hein. Alors, vous avez des gouvernements ouvertement, franchement despotiques, mais enfin, même le plus despotique des gouvernements, ils se donnent une apparence démocratique. C'est vrai. Voilà ce que je dirais. Alors, monsieur, pardon, excusez-moi.
Les apparences despotiques, les apparences démocratiques de la Chine ne sont pas très apparentes, par exemple. Et puis, à Hong Kong, parce que Montesquieu, depuis 1949, la dictature chinoise, le pouvoir autoritaire chinois, plus exactement, se maintient.
Oui, mais.
Et puis, il n'y a pas que les anciens premiers ministres qui sont des admirateurs. Il n'y a pas que d'anciens premiers ministres qui sont des admirateurs de la Chine, mais aussi des intellectuels de gauche comme Solers, par exemple. Donc là, c'est assez partagé, tout ça.
Non, alors, ce que je veux dire, ça, là, quand je disais que le gouvernement chinois, il dira qu'il est une démocratie populaire. Il se réclamera du peuple. Non, mais c'est ça que je veux dire, simplement. C'est-à-dire que jamais un gouvernement despotique, enfin aujourd'hui en tout cas, jamais un gouvernement despotique se présentera comme Montesquieu le montre, quoi, si vous voulez. C'est un gouvernement qui prétend agir au nom du peuple, pour le bien du peuple. Alors il dira, effectivement...
Sans aucune consultation du peuple.
Alors, ça on est d'accord, mais ça c'est une tendance... Alors là, il y a des tendances lourdes et des tendances un peu légères. C'est vrai que il y a... le peuple, effectivement, est souvent réduit à la portion congrue, ou tout simplement, il n'est pas du tout consulté. Ou il est consulté de façon très minimale. Voilà. Donc ça, c'est des problèmes, hein, et qui se posent aujourd'hui, de plus en plus.
Avec Bachar el-Assad, les gens...
Alors, un peu plus fort.
Avec Bachar el-Assad, les gens disaient qu'ils avaient peur les uns des autres.
Ah ben oui. Ah oui. Ah oui. Dans, alors là, c'est dans les dictatures, là, vraiment, franchement, claires et nettes, hein, les plus violentes, hein, celles où il n'y a même plus une apparence de démocratie, il n'y a même pas d'élection, rien du tout. Bon, il faut dire aussi qu'elles... Elle se déploie dans des situations de conflit avec d'autres pays. Enfin, une situation de guerre favorise largement les tendances despotiques d'un pouvoir. Ça, c'est fait, c'est certain. Alors, sous Bachar al-Assad, mais dans toutes les dictatures, effectivement, la peur est constante, la crainte est constante. On a peur d'être dénoncé, on a peur d'être arrêté, et on ne sait pas toujours, d'ailleurs, quand on est arrêté, pourquoi. Bon, alors évidemment, là, il y aurait peut-être des... Bon, Montesquieu ne nous permet pas de faire ces distinctions, mais c'est vrai que, par exemple, Hannah Arendt veut dire que le système totalitaire, c'est quelque chose de beaucoup plus radical encore qu'une simple tyrannie ou qu'un gouvernement despotique. C'est toute la vie des hommes est complètement à la merci, finalement, d'une logique folle. Où là, effectivement, la terreur est permanente.
Et deux questions. Est-ce que le terme despotique a été inventé par Montesquieu ? Et la deuxième, la racine du mot, est-ce qu'on peut le décortiquer ensemble ?
Alors, vous dire que c'est Montesquieu qui est le premier à utiliser... le gouvernement, enfin la notion de gouvernement despotique, j'en mettrai pas ma main au feu, je suis pas absolument certain, mais c'est tout de même vraiment, je crois tout de même, malgré ça, lui, le premier qui a vraiment théorisé. Est-ce qu'il est le premier à avoir employé cette expression ? Peut-être pas. Je ne suis pas sûr. Mais, bon, à la limite, là n'est pas l'important. Ce qui est important, c'est, au fond, l'usage et le sens qu'il donne à cette notion, si vous voulez, hein, dans sa... philosophie politique. Ça, c'est tout à fait nouveau. Alors, maintenant, quant à la racine du mot, je pense que ça vient du grec, je pense, qui le despote, c'est le maître. C'est le maître. C'est le maître qui a des esclaves. Vous voyez ? Donc, au départ, ça relève de l'autorité domestique. Parce que l'esclave fait partie de la famille. Vous voyez ? Oui ?
J'ai d'abord été dans un premier temps surpris par ce despote qui est paresseux et oisif, qui délègue complètement. Et puis j'ai pensé à 1984 d'Orwell, que peut-être Montesquieu n'avait pas lu. En fait, Big Brother, c'est du despotisme sans despote, dans le sens où Big Brother n'existe pas, c'est une pure fiction.
Oui.
Donc le despotisme n'a même, à la limite, pas besoin de despote pour fonctionner. Enfin, ça reste une fiction.
Je comprends pourquoi vous dites ça. Effectivement, que le despote, d'une certaine manière... Bon, alors, il n'est pas effacé hein, dans la structure du sérail, puisqu'il est tout de même là. Ce sont ses plaisirs hein, qui font loi. D'une certaine manière. Mais c'est vrai que, au fond, cette loi du plaisir, elle fonctionne sans qu'on parle précisément de la personnalité du despote. Vous voyez, c'est ça, c'est une espèce d'impératif de jouissance qui s'impose à tout le monde sans que Montesquieu donne une épaisseur à ce personnage du despote. Hein, il en dit le strict minimum. Hein, au fond, au bout du compte. Alors, je pense qu'il faut... moi aussi, ça m'a toujours dérouté au départ, ce qu'il dit du despote, parce que c'est vrai que cet homme qui va qu'à ses plaisirs, hein, qui se contente, de satisfaire immédiatement ses désirs, c'est quelque chose qui m'a toujours paru un petit peu excessif, si vous voulez.
Il a des appétits.
Il a des appétits, voilà, c'est ça.
Appétits.
Ouais, ouais. En fait, cette espèce de, au fond, de, non mais c'est, il désigne une forme de loi qui fait que on cherche, enfin, quelqu'un ou cherche à s'enrichir à tout prix, à consommer un maximum. Vous voyez, une espèce de loi qui pousse en avant, même si effectivement on va voir ça à une personne, mais à la limite c'est pas le plus important, hein. Ben enfin, je crois qu'il y a un aspect un peu fictif dans le discours de Montesquieu, qui est destiné, au fond, à dépersonnaliser tout de même pas mal la figure du despote, et à la réduire, au fond, à une espèce de loi de jouissance, en quelque sorte, hein, qui s'impose à tous de façon absurde.
Oui, ça pourrait être un appétit au sens...
Voilà.
En
oui,
sorte,
oui.
On peut mettre de... la main sur oui, rats, oui, par oui, exemple.
Oui. 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 Il y a quelque chose d'absurde dans cette espèce de volonté de posséder toujours plus, de jouir plus. Il y a quelque chose d'absurde.
Mais par contre, ça demande du travail.
Alors, pas lui, non. Non, lui, non. Non, puisqu'il ne travaille pas. Il est consacré, il se consacre entièrement, exclusivement à ses plaisirs, d'après la fiction en tout cas, et ce sont les autres qui se mettent en peine de lui obtenir ce qu'il désire. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein ? C'est-à-dire que là, voilà. Et un paradoxe du maître, enfin de ce tyran, de ce despote, c'est que d'une certaine façon, il dépend des autres puisqu'il les fait travailler. S'il n'y avait pas les autres pour le servir, il pourrait jouir de rien. Donc, mais il arrive, au fond, grâce à la crainte, à les tenir sous sa dépendance. Hein, il n'ose pas, et là peut-être on rejoint le thème de la servitude volontaire, hein, il n'ose pas effectivement s'affronter à lui. Hein, ils ont peur, ils tiennent par la peur. Alors, d'autres...
C'est pas une question, bon ou mauvais berger, le peuple a toujours besoin d'être encadré. C'est pas un constat, plus qu'une question, je sais pas.
Alors, bonne question, hein, parce que effectivement, c'est ce que nous, c'est la question que nous avions rencontrée quand nous avions lu tout ce développement de Montesquieu sur la démocratie, où il présuppose, mais sans... C'est une affirmation, à la limite, qui n'est pas mise en question. Il présuppose que le peuple est ignorant et incompétent, qu'il a besoin, au fond, de confier des responsabilités aux magistrats pour le conduire. Bon... Ça, c'est clair. Mais on peut pas se border à ce constat. On pourrait très bien dire que si le peuple était instruit, il en serait autrement. Et il n'est pas dit que ceux à qui il confie la charge d'être responsable soient forcément plus éclairés. Ça aussi, c'est un présupposé. Vous voyez ? Donc, et ça, effectivement, il y a... Et là, c'est une question de fond. Il y a une sorte de... Bon, de mépris un peu élitiste à l'égard du peuple, de la populace, qui est censée toujours, finalement, n'agir que par des passions, qui est ignorante, qui n'est pas clairvoyante, et qui est incapable de se prononcer sur les grandes affaires, sur les grandes questions. Une question qui revient constamment. Et c'est vrai que bon, Montesquieu, là, il a une philosophie de ce point de vue de notable, hein, il pense effectivement... il faut que ce soit des représentants éclairés, pas des gueux, qui, en quelque sorte, exercent directement le pouvoir. Alors, en même temps, on comprend très bien les raisons pour lesquelles on puisse se méfier d'un exercice pur de la démocratie qui consisterait, par exemple, je ne sais pas, à faire des tribunaux populaires. Hein. Bon, ça, effectivement, on peut comprendre que ça puisse effectivement être effrayant et dangereux et que ça ne protège pas effectivement les hommes. Mais en même temps, cette conception, si vous voulez, élitiste tout de même, qui exclut le peuple et qui est au fond constamment reprise, hein, elle peut apparaître discutable. Là, c'est une question, effectivement. Vous voyez, lire un texte, lire un auteur, c'est le comprendre. C'est pas forcément. Le suivre en tout.
Mais c'est pas facile d'imaginer. Enfin, il me semble, enfin, pour moi, c'est difficile d'imaginer ce qu'il appelle le peuple. Parce que...
Alors, il y a un double sens du mot.
Parce que l'humain a l'état.
Non, mais on avait dit qu'il y a deux sens chez lui qui se côtoient. Il y a le sens, le peuple au sens du populus, hein, c'est-à-dire le peuple au sens politique, c'est le corps des citoyens dans sa totalité. À Athènes, le peuple, ce sont les citoyens, ils sont recensés et qui ont, au fond, le droit de voter les lois et de participer, au fond, aux discussions hein, qui concernent les affaires communes. Bon, ce sont les citoyens. Alors, ça exclut les femmes, ça exclut les enfants, les métèques, les esclaves. Donc, le peuple n'est pas si nombreux que ça, finalement, au bout du compte. Bon. Alors, ça, c'est le sens politique du mot. Et puis, il y a le sens social, où le peuple, là, c'est pas le populus, c'est le vulgus, c'est la plèbe, c'est le petit peuple. D'ailleurs, il emploie l'expression, parfois, le petit peuple. Et là, effectivement, c'est ce petit peuple qu'il faut contenir, parce que lui, particulièrement ignorant. Il est animé par des passions tumultueuses. Et là, vous vous souvenez, il dit bien que il faut, c'est ce que avaient fait les grands législateurs à Athènes et à Rome, c'était débrouiller pour diviser le peuple en plusieurs classes électorales et pour faire en sorte que les plus pauvres se retrouvent dans la même classe électorale la plus nombreuse et qui compte autant que les autres qui sont moins nombreuses. Vous voyez ce que je veux dire hein? Un découpage qui fait bon, qu'on, au fond, au XIXe siècle, on mettra en place un suffrage censitaire. Hein. On ne pourront voter que ceux qui ont un certain degré de fortune. Vous voyez ? C'est ce qui se passe au XIXe siècle. Hein. Et pas mal d'hommes politiques français au XIXe siècle, même pendant la Révolution, pensent que ce serait une mauvaise chose que tous les hommes aient la voix au chapitre. Il faudrait que ce soit, on trouve la même question, ce soit toujours ceux qui, bon, parce qu'ils ont une propriété, parce qu'ils ont un certain degré de richesse, parce que c'est ceux-là qui doivent pouvoir effectivement s'exprimer. Les autres, non, voilà, ils n'ont pas le droit au chapitre. Et alors ça, c'est... Là, alors, et la Révolution française va tout bousculer. Elle va tout bousculer, parce qu'effectivement... le peuple, au sens même des gueux, la plèbe, eh bien, effectivement, elle va rentrer en scène. Ça va être dur de la rattraper et de la faire rentrer.
Le tiers-état,
alors le tiers-état, c'était l'ancien régime, le tiers-état, il y avait le clergé, il y avait la noblesse, et le tiers-état qui regroupait, au fond, tous les autres. Le tiers-état, c'était surtout les bourgeois, si vous voulez. Hein, les bourgeois, certains degrés de fortune, c'était l'État le plus nombreux, hein, le plus important. Hein, un des premiers enjeux de la Révolution française, c'est de faire en sorte que le tiers-État puisse s'exprimer à égalité, au moins à égalité avec les autres, et même plus, puisqu'ils sont plus nombreux. Donc c'est vrai que c'est un enjeu, hein, c'est qui est le peuple ? Ça, c'est la question fondamentale. Qui est le peuple au sens politique hein.
La Révolution française, ce sont les bourgeois qui l'ont fait.
Oui et non. Ça dépend quelle phase.
Oui.
Au départ, s'il n'y avait eu que les bourgeois et les députés à Versailles, ça n'aurait pas été si loin. Et c'est parce que le peuple a fait une irruption au sens de la plèbe hein, dans les assemblées que ils se sont sentis tout de même... un petit peu contraint d'aller au-delà de ce qu'il souhaitait. Il y a eu tout de même... alors lui, à la fin, oui, à partir de Thermidor, c'est clair, hein, c'est fini. Tout le monde rentre dans l'ordre. Mais si vous voulez... non, le peuple... Alors évidemment, pas d'anachronisme. On ne peut pas parler au XXe siècle... sous la Révolution, il n'y a pas de prolétariat, quelque chose comme ça, ça n'existe pas. Et c'est le peuple, le petit peuple, ce sont des petits artisans, ce sont les gens, ceux qui ont fait la prise de la Bastille, ce sont des gens qui sont au Faubourg Saint-Antoine. C'est des petits artisans. hein, des petits ouvriers, des gens. Bon, et ce sont ceux-là qui se mobilisent tout de même. Hein. C'est les bourgeois, ils ne sont pas trop présents tout de même. Et donc, il y a ce petit peuple, puis il y a les paysans hein, aussi. Et la France est un pays agricole, enfin la paysannerie très importante. Et un des premiers acquis de la Révolution pour les paysans, et aussi pour les bourgeois, c'est la vente d'abord des biens de l'Église. Il y en a qui vont s'enrichir grâce à ça, hein. Et sacrément. Hein. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas envie de revenir, même ceux qui sont contre l'aspect trop radical de la Révolution française, et qui ont acquis un certain degré de fortune, n'ont pas envie de revenir à la monarchie, parce qu'il faudrait rendre ce qu'ils ont pris. Et ils préfèrent la solution de Bonaparte, à Napoléon Ier ensuite. Mais oui, bon, là, il y a ça. Et puis les petits paysans, oui, ben, ils vont bénéficier du partage des terres, tout de même. Ils vont voir leurs conditions tout de même un peu s'améliorer. Ils vont moins dépendre des grands seigneurs. Là, il y a des changements, tout de même. Transformations sociales qui vont jouer. Donc, c'est pas qu'une affaire de bourgeoise, non plus. Hein. Évidemment, il y a plusieurs couches sociales qui vont jouer. Alors c'est vrai que Montesquieu, bon, c'est un notable, lui, il n'envisage pas, effectivement, que les peuples, au sens du petit peuple, effectivement, puissent avoir la voix au chapitre. Oui.
Mais est-ce qu'il n'approfondit pas la notion de despote pour mieux éclairer la royauté de ses risques, finalement, enfin,
par rapport à la monarchie française? Alors c'est son souci. Mais comme il produit un discours philosophique, d'analyse politique, il ne réduit pas tout de même ce qu'il dit au cas qui l'intéresse.
Oui, parce qu'il y aimait la République aussi.
Bien sûr, c'est une analyse générale tout de même.
Et c'est une alerte.
Mais bien sûr que lui, il est très inquiet de ça. Il a très peur, et là on va revoir là-dessus la question.
C'est pour ça qu'il ne parle pas de tyran, mais qu'il prend un terme un peu plus...
Ah non, ça c'est pas pour cette raison-là. C'est parce qu'effectivement, pour les raisons que j'ai indiquées, parce que le mot tyran, il n'a pas le sens... le mot despote, et puis le mot despote montre bien que celui qui exerce le pouvoir, il va traiter les hommes comme des esclaves. Comme des esclaves. C'est cette idée. Hein, mais c'est vrai que sa préoccupation majeure... C'est la dérive absolutiste de la monarchie. Ça, c'est clair. Et c'est vrai qu'il fait partie, au fond, de ces seigneurs qui sont mobilisés, effectivement, contre la monarchie absolue. C'est vrai. C'est un fait. Et c'est un... Alors, il est d'origine. Il est de la noblesse, d'épée et à la fois de robe. Hein, les peu les deux. Mais il a surtout exercé le rôle de président du Parlement de Bordeaux. Hein, tout de même. Donc un Parlement, c'est important hein, dans le Royaume de France. Très important. Donc oui, il fait partie de ces gens-là, hein, c'est clair. Mais ce serait trop simple de le réduire à sa fonction, enfin à ses intérêts en quelque sorte. Parce que d'une certaine manière, il en est un peu détaché, dans la mesure où il est propriétaire de vignobles. Cela, il va vendre sa charge hein, de parlementaire. Parce que ce qui l'intéresse, c'est de réfléchir, hein, c'est l'étude. Voilà, ça, c'est ça qui le passionne. Il aurait voulu être diplomate aussi. Mais il n'a pas été choisi comme diplomate. Mais bon, voilà, c'est un homme vraiment extrêmement curieux. Hein, qui... voilà. Alors, c'est vrai que c'est ça, la monarchie absolue de droit divin. C'est, au fond, sous cet aspect-là, que le despotisme risque de l'emporter en Europe. Et aussi, ce qui l'inquiète, c'est le développement, le système économique impulsé par la traite des Noirs, par l'esclavage, par la traite coloniale. Il est très inquiet de ce développement. Il a peur que l'esclavage revienne en Europe par ce biais-là. La peur de ça. Il a peur de. Vous voyez, là, il y a vraiment une inquiétude à ce sujet. Il pense que les choses vont pas dans le bon sens. C'est un des premiers témoins de la mondialisation. Voilà. Et une inquiétude. Mais bon, on verra ça la prochaine fois.
En fait, c'est vrai que ça a beaucoup
d'écho avec la... Ah ben oui, de toute façon, moi je trouve que lire Montesquieu, j'ai pas l'impression... Enfin, bien sûr que c'est autre chose, c'est une autre époque. Mais en même temps, ça permet de prendre de la distance, une distance un peu plus intelligente à l'égard de notre propre époque. Voilà.